Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Ceci va-t-il tuer cela ? C'est un peu la question qui n'est pas simplement une question qu'on va discuter ce soir, qui est une question générale à laquelle vous avez certainement réfléchi, vous avez certainement une idée. Ce soir, on va illustrer cette thématique-là en l'inscrivant dans le terrain de l'Université de Neuchâtel, le terrain qu'on connaît bien, avec ce débat qui s'appelle le libre accès en sciences humaines et sociales. Libre signifie-t-il gratuit ? Je vous disais, le terrain de l'Université de Neuchâtel, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une université qui est essentiellement inscrite dans les sciences humaines et sociales. 80% des effectifs étudiants suivent un enseignement dans ce domaine-là à l'Université de Neuchâtel. Et puis, c'est donc un très grand plaisir ce soir pour notre université d'accueillir quatre spécialistes en collaboration avec les éditions Alphil qui fêtent leur 20e anniversaire cette année pour cette table ronde. Mon nom est Fabien Greub, je suis chargé des relations publiques ici à l'université. Et puis maintenant, je vais vous présenter les quatre intervenants de ce soir, alors dans un ordre alphabétique, qui ne dit rien donc de mes préférences personnelles par rapport aux différents débatteurs. Je commence par Alain Corta. Alain Corta, vous êtes historien. Vous avez notamment collaboré à la commission Bergier sur la Suisse et la Seconde Guerre mondiale. On se souvient de ce grand travail. Et puis parallèlement donc à vos activités académiques, vous vous êtes lancé dans une carrière d'éditeur en créant les éditions Alphil il y a 20 ans. Donc c'est vous le Al de Alphil. Pour le fil, peut-être qu'on le saura dans le courant de la soirée, peut-être pas. Chez Alphil, vous êtes aujourd'hui éditeur, responsable des manuscrits, directeur de collection et directeur. Et vous êtes également président de l'Association suisse des éditeurs de sciences humaines et sociales. Laurent Gobat, alors vous avez fait un CFC en électronique et mécanique, puis des études de lettres ici à Neuchâtel. Vous avez ensuite officié comme sous-directeur à la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Et puis ça fait bientôt 5 ans que vous êtes à la tête en fait, des bibliothèques de l'université de Neuchâtel comme coordinateur des bibliothèques et de l'information scientifique. Et vous êtes aussi coordinateur local du réseau des bibliothèques du canton de Neuchâtel et du Jura. À côté de vous, Paul Schubert, études aux universités de Genève, Oxford et Heidelberg. Ensuite, vous avez été professeur de langue et littérature grecque ici à Neuchâtel. Pas mal de gens se souviennent encore de vous. Et puis aujourd'hui à Genève, vous êtes l'auteur d'un blog qui s'appelle pourlamourdugrec.com, que je vous recommande chaudement. Spécialiste de la papyrologie, mais ce n'est pas pour vos compétences en papyrologie qu'on vous a invité ce soir, c'est aussi parce que, en plus d'être chercheur, vous avez une autre casquette, c'est celle de président de la division sciences humaines et sociales du Conseil national de la recherche, donc vous représentez le Fonds national de la recherche scientifique. Pour quelques semaines seulement, on a eu de la chance de vous attraper avant que ce soit terminé. Et puis, François Valoton, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne. Vous avez soutenu votre doctorat en 2000 sur la naissance du métier d'éditeur en Suisse, 1880-1920. Et puis récemment, vous avez publié dans la collection Le Savoir Suisse un livre sur les batailles du livre, donc, qui nous raconte en fait, l'histoire et l'actualité des éditeurs aujourd'hui en Suisse romande. Vos domaines de recherche sont l'histoire des médias en Suisse, l'histoire du livre, de la lecture et de l'édition, l'histoire audiovisuelle du contemporain. Et vous êtes aussi président du Fonds des publications de l'Université de Lausanne. Alors François Valoton, je vais directement vous passer la parole. Pourquoi, finalement, posons les enjeux de la discussion. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il faut entendre par open access aujourd'hui et puis pourquoi c'est important d'en débattre ?
Oui, bonsoir. Alors d'abord, merci pour cette invitation. Donc comme vous l'avez dit avant de répondre à votre question, j'ai un peu une triple casquette vu que ah oui, je suis chercheur autour de l'histoire du livre et de l'édition en Suisse romande, un domaine de recherche qui m'a amené aussi à côtoyer de manière assez régulière le milieu de l'édition. Je ne dirais pas que j'en connais toutes les arcanes, mais disons, j'ai encore peut-être jusqu'à ce soir pas mal d'amis dans ce métier. En deuxième lieu, je suis vice-doyen avec un dicastère, qui est le dicastère recherche, donc qui est très directement lié à la problématique de l'open access. Et puis j'ai une troisième casquette, comme vous l'avez dit, qui est celle de président du Fonds des publications de l'Université de Lausanne, donc une instance qui préside à la distribution d'un certain nombre d'aides à l'édition. Et au sein de cette instance, nous avons introduit depuis septembre un open access selon la voie. Alors, les couleurs ont un petit peu changé, la voie verte ou la voie bleue, donc avec une barrière mobile, donc un embargo sur les publications d'une durée de 2 ans pour les publications dites collectives et 3 ans pour les monographies. Donc voilà, donc c'est pour dire que ma position est un peu schizophrénique, vu que j'en ai diverses, et peut-être par rapport à la question de l'open access, avec des casquettes qui peuvent m'amener à avoir des positions assez contradictoires. Mais pour répondre à la question, donc l'open access, c'est un mouvement qui a démarré en gros dans les années 90, qui vise à une amélioration globale de la diffusion de l'information scientifique, en privilégiant un accès gratuit et intégral aux publications scientifiques, par le biais notamment, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais peut-être de 2 moyens, soit des revues qui sont en open access à partir d'un certain moment, ou au moment même, disons, de leur publication, ou bien par des serveurs institutionnels qui peuvent être abrités par différentes universités, notamment, où les chercheurs vont déposer donc leur publication. Voilà, en gros, peut-être mes collègues compléteront ce qui n'est pas évidemment une définition exhaustive. Débat fondamental, je pense qu'il l'est à plusieurs titres. Ben, d'une part, parce que bon, ma première quand même, casquette, c'est celle de chercheur, et cette problématique, elle touche finalement à un domaine essentiel qui est celui de nos modes de production et de communication scientifique. Donc, c'est un enjeu très important qu'il ne faudrait pas résumer à une sorte de bataille entre anciens et modernes, entre geeks et attachés au papier. On est véritablement dans un enjeu extrêmement important qui touche au cœur même, disons, de notre activité professionnelle et scientifique. Le deuxième élément, je pense que c'est important d'avoir un débat parce que cette problématique, elle reste mal connue. C'est un débat qui est complexe, qui recoupe des enjeux qui sont des enjeux techniques, qui sont des enjeux juridiques, qui renvoie aussi à un paysage qui actuellement est assez difficile à cartographier. Et donc je pense qu'il est important de mener ce débat à toutes les occasions pour que toutes les personnes concernées par cette problématique, les chercheurs, mais également finalement tous les représentants qui sont présents autour de cette table virtuelle, puissent véritablement y réfléchir et en mesurer les enjeux, et des enjeux qui, encore une fois, ne se résument pas à la question est-ce qu'on est pour ou contre l'open access. L'open access, de toute manière, c'est une réalité, et il faut maintenant essayer de l'aborder en essayant d'établir peut-être un certain nombre de règles, un certain nombre de garde-fous, un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et puis le troisième élément que je pense aussi très important, puis qui illustre finalement la composition du débat de ce soir, c'est de mener cette discussion avec les différents acteurs qui sont associés à la production, à la diffusion du livre. Donc on dit que cette chaîne du livre n'a plus aucun sens, qu'elle est vouée à la disparition, que on est dans le monde de la désintermédiation et que finalement, on n'aura bientôt plus besoin d'intermédiaires. J'en doute fortement et quoi qu'il en soit, dans la situation actuelle où, rappelons-le, le numérique ne représente qu'un segment encore extrêmement marginal par rapport à l'ensemble de la réalité éditoriale, évidemment un segment beaucoup plus important par rapport à la communication scientifique, il faut aborder ces questions avec les éditeurs, avec les diffuseurs, les distributeurs, mais aussi avec les bibliothèques. Donc voilà un peu comment je poserai le débat.
Merci. Les termes du débat sont posés. Je me tourne à présent vers Paul Schubert. Vous l'avez entendu. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. C'est peut-être quand même difficile d'être contre. Vous, au FNS, vous êtes en plein dans ce débat-là, parce que ce n'est pas un débat suisse, c'est en fait un débat international, mondial. Et c'est aussi un débat qui vient d'une évolution technologique, en fait, qui va prendre de plus en plus d'importance dans notre monde.
Oui, tout à fait.
Je peux vous demander.
Vous m'entendez là-bas ? Sinon, je prends le micro, mais ça va ?
Le débat étant enregistré.
Alors, dans ce cas-là, je parle dans le micro, excusez-moi. Bien sûr. Alors, je ne peux que souscrire à ce qu'a dit mon collègue François Voloton, mais j'aimerais rajouter donc, que, tout d'abord, dans cette question de l'accès libre, de l'open access, il y a une notion d'intérêt public. Vous payez des impôts. Et ces impôts servent notamment à payer des chercheurs qui produisent de la recherche, et cette recherche est un bien public. Donc, à partir de là, la réflexion du Fonds national, c'est de dire nous devons participer à ce mouvement qui consiste à mettre à disposition du public les résultats de la recherche. On parle ici de recherche fondamentale, évidemment, le Fonds national n'étant pas simplement une sorte d'organe de subventionnement de tout le monde de l'édition en général. Alors ça, c'est une des dimensions. Il y a un intérêt public, il y a un intérêt scientifique, évidemment, parce que les chercheurs ont tout intérêt à pouvoir accéder rapidement et facilement aux données qui vont leur permettre d'aller plus loin. Et puis, il ne faut pas oublier, ne soyons pas naïfs, qu'il y a une dimension financière, parce que dès que vous commencez à élargir les choses à un contexte qui n'est pas seulement celui des sciences humaines et sociales, vous avez affaire à des groupes d'édition qui sont des colosses, Elsevier, par exemple, Springer, tous ces grands groupes d'édition. Et ce sont eux qui, pour l'instant, dictent les lois du marché avec des marges de bénéfices de l'ordre de 40%. Donc, évidemment, tout ça, ce sont des choses qui sont payées à partir de l'argent du contribuable. Et la politique du Fonds national, donc, elle vise à la fois une dimension, je dirais, pragmatique, qui est de faciliter l'accès à la recherche, mais aussi de faire en sorte que les fonds publics soient dépensés d'une manière, je dirais, aussi équitable que possible.
Alors, Laurent Gobat, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous l'avez entendu, c'est vrai que c'est plutôt une bonne affaire pour les universités, pour les bibliothécaires comme vous, s'il ne faut plus payer des livres, des abonnements d'une année à l'autre grâce à l'open access.
Oui, tout à fait. Alors nous, l'open access est une aubaine pour nous, puisque notre mission, c'est de faire parvenir l'information à nos usagers par tous les biais qu'on peut. Et donc l'open access, c'en est un. Mais disons que le problème pour la bibliothèque, c'est qu'on ne peut pas résilier nos abonnements Elsevier, Wiley et compagnie comme ça du jour au lendemain, parce que les chercheurs, ils seraient pas d'accord. Quoi. Ça a déjà été essayé par des collègues courageux, je crois à Genève, en fait, pendant un très court laps de temps. Et la réaction était telle qu'ils ont tout de suite repris leurs abonnements. Donc en fait, quand on négocie avec ces grands éditeurs, il faut toujours penser qu'on négocie en sachant qu'à la fin, on doit sortir avec un abonnement. Donc la position de négociation, c'est clair qu'elle n'est pas idéale pour nous, bibliothèques. Ça, c'est un aspect. Et puis l'autre aspect, c'est que donc, nous, en tant que bibliothèque, on met des documents sur notre serveur institutionnel pour l'UNINE, c'est RéroDoc. Et donc là, on fait un travail de mise à disposition. Mais je dois dire, là, le problème, si on veut, c'est qu'on n'a pas d'incitation forte à ce que les gens mettent leurs publications sur RéroDoc. Avec le système actuel, c'est laissé au bon vouloir des uns et des autres. Alors il y en a qui mettent beaucoup de choses, et puis il y en a qui mettent juste rien du tout.
Donc, aujourd'hui, c'est votre travail de faire la chasse aux chercheurs pour qu'ils mettent leur recherche sur les bases de données, pour que les gens qui ont soutenu leur thèse mettent bien leur thèse ensuite en accès libre. Les chercheurs, ouais. Ils sont plutôt favorables ou bien il faut les prendre par le bras, faut...
Alors les thèses, c'est encore un aspect un peu à part, mais disons qu'en général, oui, ça fait partie de notre travail. Je ne dirais pas que c'est à ça qu'on passe le plus de temps, il faut le reconnaître, mais disons que ça dépend un peu des affinités, des connaissances des uns et des autres, des bibliothécaires dans les différentes facultés. Il y a des contacts qu'ils ont avec les professeurs, les chercheurs, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais disons qu'on n'a pas un système comme c'est dans d'autres universités où, par exemple, on dit aux professeurs et chercheurs que leur évaluation périodique, elle prend en compte les publications qui sont sur la plateforme. Parce qu'alors là, évidemment, ils sont beaucoup plus motivés pour y mettre leurs publications.
Voilà, Alain Korta, on a mentionné Elsevier. Sans vouloir faire injure à Alphil, c'est pas tout à fait la même catégorie. Hein. Et puis évidemment, ce soir, on parle du libre accès en sciences humaines et sociales, un domaine où on parle peut-être moins d'articles, plus de monographies, ou en tout cas, où on parle plus facilement de monographies. Quelle est aujourd'hui la position d'un éditeur comme Alphil par rapport à cette... ce mouvement vers l'accès libre.
Alors, première chose, c'est bien que vous présentiez la maison d'édition, c'est-à-dire que nous, on fait 15 à 20 livres de sciences humaines et sociales par année. Donc, par rapport à des grandes maisons d'édition qui ont des contrats à plusieurs millions et qui sont parmi les plus grandes maisons d'édition du monde, tout compris dans les classements internationaux des grandes maisons d'édition, c'est des maisons d'édition universitaires qui ont les plus grands chiffres d'affaires, le plus grand nombre de titres publiés et le bénéfice le plus élevé, surtout en venant des sciences techniques et des sciences de l'ingénieur et des sciences dures. Donc ma position, elle est celle plutôt d'un petit éditeur de sciences humaines et sociales. Et là, j'ai eu dès le départ dans ce débat une position particulière, et j'ai toujours incité mes collègues éditeurs suisses à avoir cette position, c'est de ne pas s'opposer à l'open access. Parce que avant d'être éditeur, j'ai été chercheur. Puis quand j'ai commencé ma carrière de jeune doctorant ici à l'Université de Neuchâtel, quand je faisais une recherche, je feuilletais toutes les revues papier de mon domaine, et puis je regardais les tables des matières, les index, je cherchais des titres, etc. Je passais un temps énorme à faire ces recherches. Et puis la dernière recherche que j'ai commencée ici à l'Université de Neuchâtel, j'allais simplement sur une plateforme, je mettais des mots-clés où j'ai des centaines de revues, des centaines d'articles sur les 50-60 dernières années, et vraiment je trouvais de l'information que je pense que j'aurais jamais trouvé avec l'ancien système. Donc par cette expérience, j'ai vu l'intérêt en tout cas du livre électronique et éventuellement de l'open access. Maintenant, en tant qu'éditeur, je crois que on ne peut pas s'opposer à ce mouvement d'open access. Et puis, la position que j'ai toujours défendue et que j'ai incité les autres éditeurs suisses à défendre, c'est de dire, si les chercheurs veulent encore un travail d'éditeur, on doit le payer à un moment donné. Alors, peut-être qu'avec le système actuel, on le paye 2 ou 3 fois, et de mettre en place un système où on ne le payerait qu'une fois, je suis tout à fait favorable. Et en fait, on a créé une association des éditeurs suisses de sciences humaines, et la position de l'association est la même, c'est-à-dire de dire l'éditeur fait un travail, tant que l'université et les chercheurs veulent qu'on fasse ce travail, il faut le payer à un moment donné. Et nous, ce qu'on propose, le modèle qu'on propose, c'est de dire il faut payer l'éditeur pour son travail, il faut bien définir son travail, parce qu'il y a des éditeurs qui se contentent simplement d'imprimer des livres parce qu'on demande aux chercheurs de faire tout le travail. Alors pour ça, il n'y a pas besoin d'argent. C'est définir vraiment le travail des éditeurs et puis trouver un modèle de financement pour payer leur travail. Puis ensuite, mettre le travail des éditeurs en libre accès, d'une part, sur des plateformes. Et puis d'autre part, laisser la possibilité, comme c'est le cas en Suisse actuellement, aux éditeurs de continuer à sortir du papier. J'aimerais dire une chose. Il y a 10 ans, je pensais que l'ensemble de la chaîne du livre papier disparaîtrait, qu'on aurait le même phénomène que pour la musique. Après, j'ai changé ma position. Je me suis dit que pour le livre grand public, le papier allait rester. Et à mon avis, ce sera le cas. Plusieurs formats vont côtoyer. Puis pour l'universitaire, je pensais que là, tout passerait en numérique. Puis maintenant, ma conviction, c'est que même dans ce domaine-là, le papier va continuer à jouer un rôle. C'est-à-dire que les chercheurs vont commencer à faire des recherches sur les bases de données, dans les banques de données, trouver les livres et tout. Et on constate que, en tout cas, la génération actuelle, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans, même s'ils trouvent l'information, pour vraiment lire les livres, ou si c'est des monographies, si c'est des livres, ils continuent à les acheter. Et je pense que pendant, en tout cas, 10 à 20 ans, on va être dans un modèle mixte. Maintenant, ce qu'il faut, pour moi, la vraie question, c'est le rôle que l'éditeur, c'est-à-dire, est-ce que les chercheurs veulent encore un éditeur? Puis s'ils le veulent, il faudra le payer. Maintenant, en tant qu'éditeur de sciences humaines et sociales, nous, on a une double attitude. C'est-à-dire qu'on dit, on diffuse des livres spécialisés pour des chercheurs et pour ça, on a besoin de financement parce que les ventes ne couvrent pas notre travail. Mais en tant qu'éditeur, on a aussi, nous, une stratégie de dire on veut faire des livres de sciences humaines et sociales qui ne soient pas subventionnés. Par exemple, j'ai pris ici une collection. On a lancé une collection de petits livres de synthèse qui fonctionnent très, très bien. Celui-ci, une histoire du Swatch Group, on est à sa deuxième édition. On l'avait tiré à 1000 exemplaires à l'origine. Et puis, pour nous, pour notre positionnement, c'est aussi d'avoir un rôle, en plus de diffuser la recherche, auprès d'autres chercheurs, auprès de bibliothèques, c'est aussi de diffuser la recherche auprès d'un public plus large. Et par des collections de ce type-là, on joue aussi ce rôle.
Le rôle de l'éditeur, on a un spécialiste de l'histoire des médias, un spécialiste de l'histoire de l'édition. Alors l'éditeur, il a encore un rôle à jouer aujourd'hui où on peut finalement, depuis sa chambre, mettre ses écrits directement en ligne.
Alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je pense les chercheurs peuvent répondre de manière assez différente. Certains pensent que l'auto-édition est finalement tout à fait compatible à la fois avec leur activité et avec leur pratique scientifique. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut introduire. Pour moi, je reste convaincu que le rôle de l'éditeur est extrêmement important. D'abord, parce qu'il faut faire une distinction entre publier et éditer. Ces deux mécanismes qui me semblent complémentaires, mais qui sont différents. La publication, finalement, c'est quelque chose qui est relativement simple. Dès que vous avez quelque chose à dire, vous faites un tweet, vous le mettez sur Facebook, et c'est emballé, pesé. Maintenant, il faudra voir justement dans quelle mesure ce tweet, pour les gens qui ont déjà 20 000 abonnés, sera véritablement repérable. Il faut en tout cas que soit ils aient beaucoup de temps à consacrer au dépouillement de leur tweet, soit qu'ils soient dans un rapport de quasi-simultanéité avec l'information qui aura été communiquée. Donc publier, c'est très simple. Éditer, c'est autre chose. Éditer, c'est mettre en ordre un matériel où justement cette question de la publication immédiate de résultats de la recherche est préparée par tout un travail en amont qui vise à donner une cohérence qui est à la fois une cohérence formelle mais également une cohérence dans les contenus qui peuvent être liés à cette publication et qui l'inscrivent dans une temporalité. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et je pense qu'il faut vraiment distinguer ces deux opérations. Encore une fois, elles sont complémentaires, mais il est pour moi extrêmement important, notamment travaillant comme historien, qu'une publication soit ancrée dans un régime de temporalité. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Deuxième élément, il faut en effet distinguer les éditeurs en fonction de leur taille et en fonction de leur domaine d'intervention. La problématique est assez différente pour des éditeurs en sciences dures, où finalement le public est surtout, et même essentiellement, un public de chercheurs. Finalement, la communication vers la cité va être relativement réduite. Pour les éditeurs de sciences humaines et sociales, cette fonction de passage vers la cité est extrêmement importante. Et donc, il faut garder cette fonction de relais dans la mesure où un lecteur lambda n'ira pas forcément, même ira avec beaucoup de prévention, sur un serveur institutionnel pour aller chercher l'information, et cette information risque d'être diluée dans la masse de ces informations. Et puis, le troisième élément, c'est que je pense que l'édition est importante pour garantir à la fois une forme de bibliodiversité. Les éditeurs, en fait, en publiant, impriment également une certaine marque par rapport à une production, et que donc l'éditeur, c'est également celui qui va permettre à ces productions d'être associées à un certain type de catalogue, à un certain type de démarche, à un certain type de posture critique et analytique. Et ça, c'est quelque chose également d'extrêmement important, non seulement dans le débat scientifique, mais dans le débat public.
Oui, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la norme ISO, hein, qui atteste la qualité de ce qui est publié. Laurent Gobat, lorsqu'on préparait ce débat, vous me disiez que effectivement les éditeurs, ils ont aussi un rôle symbolique, et vous me donniez l'exemple des commissions de nomination.
Ah oui, en fait, parce que dans cette problématique, mes collègues ici pourraient mieux l'expliquer que moi, mais c'est un petit peu l'histoire du chat qui se mord la queue, ou de la poule et de l'œuf. Et puis chacun se renvoie un petit peu la responsabilité de pourquoi les chercheurs publient dans certaines revues et pourquoi nous on valorise certaines revues. Et en fait, là où se joue le processus, à mon avis, hein, c'est dans les critères de sélection des professeurs. C'est-à-dire quand on nomme ou quand on choisit un professeur, vous pourrez mieux l'expliquer que moi, mais on tient compte de certains critères, et en particulier des publications, et des publications dans quel type de revue. Et à partir de là, les gens sont bloqués dans ce système, parce que le jeune chercheur qui veut faire une carrière, il cherchera forcément à publier dans des revues qui sont valorisées pour la progression de sa carrière. Et de changer le système à ce niveau-là pour que des publications open access puissent avoir une valeur aussi grande que celles qui sont utilisées actuellement, ce n'est pas une mince affaire de faire la transition, je dirais.
Donc, chez qui vous avez publié, c'est quelque chose d'important. Paul Schubert, on a entendu aussi beaucoup parler de la question financière, parce que j'imagine que l'idée du FNS, c'est pas de ne plus financer puis de dire « mettez tout sur Internet », c'est d'essayer d'estimer aussi le travail des éditeurs à leur juste valeur. Peut-être que c'est là-dessus que vous ne serez pas d'accord entre éditeurs et FNS, c'est bien ça ?
Oui. Tout d'abord, juste pour répondre à M. Gobat sur un point, les meilleures revues sont celles qui sont à la pointe pour l'open access. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Le chercheur qui veut percer, il doit justement viser ces revues-là qui sont en train de conduire le mouvement de l'open access. Maintenant, par rapport à la dimension financière, tout à fait. Tout d'abord, je précise que nous sommes dans un biotope extrêmement diversifié. Je veux dire par là que quand on dit sciences humaines et sociales, ça veut dire des économistes ou des psychologues qui publient par article et en anglais, des philosophes qui de plus en plus publient par article et en anglais, et puis par ailleurs aussi, par exemple, des linguistes qui publient des monographies, des historiens qui publient des monographies, même un helléniste qui parfois publie des monographies. Donc simplement, on n'est pas dans un système entièrement normé. Alors, pour la dimension financière, évidemment, dans l'esprit du Fonds national suisse, il n'a jamais été question de dire on va se débarrasser de ce budget. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On investit toujours autant, je dirais même plus actuellement, dans les subsides aux publications. Mais notre idée, c'est que nous devons soutenir les publications de recherche fondamentale qui n'auraient aucune chance de paraître s'il n'y avait pas un soutien. Donc ce ne sont pas des choses que vous allez trouver chez Payot, c'est des choses que vous allez trouver dans des librairies spécialisées, généralement en ligne. Ce sont parfois aussi justement des revues. Nous payons aussi pour des articles que des gens publient dans des revues. Donc si vous voulez, oui, il y a une dimension financière qui est très importante. Notre but n'est pas de soutenir en soi les éditeurs, c'est une conséquence. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous soutenons la diffusion du savoir au niveau de la recherche fondamentale. Et puis ensuite, eh bien, on se réjouit de voir que ça aide aussi les éditeurs. Mais notre but n'est pas de maintenir les éditeurs, petits ou grands, dans les chiffres noirs. C'est pas notre mission, même si on est très content que ça y contribue.
Vous avez certainement quand même un avis, alors peut-être c'est pas celui du FNS, peut-être c'est votre avis personnel, mais sur l'existence en Suisse de ce modèle avec quand même pas mal d'éditeurs qui sont des éditeurs privés, qui sont pas des presses universitaires, hein, c'est pas les universités qui publient en Suisse, contrairement à la France par exemple, qui est un pays qui nous inspire souvent beaucoup dans le monde universitaire.
Oui, et là de nouveau en Suisse, vous avez une très grande diversité entre les régions linguistiques, entre les tailles des maisons d'édition. Vous avez certains gros éléphants avec les poches plutôt confortables, et puis vous avez des petites maisons d'édition qui doivent essayer de régater avec des moyens plus réduits. Et finalement, on se retrouve dans des dynamiques qui ressemblent vaguement à l'épicerie contre la Migros, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on peut de nouveau pas simplement dire il y a un modèle qui convient pour absolument tout le monde. Néanmoins, le Fonds national peut pas faire des règles à la tête du client. On est obligé de mettre des normes, c'est ce qu'on fait. Et puis quand on voit qu'il y a un problème spécifique qui rendrait impossible le soutien d'une publication, à ce moment-là, on accepte d'entrer dans une logique d'exception. Mais on n'accepte pas l'exception comme principe. Je vous donne un exemple. Vous êtes historien de l'art, vous voulez publier une belle monographie. Et puis le Fonds national suisse vous dit « Oui, on vous soutient, mais il faut que tout soit en libre accès. » C'est très sympathique. Mais ensuite, vous allez contacter le British Museum, la Smithsonian, des institutions comme ça, qui vont vous dire « Ouais, alors pour cette image, ça va faire 10 000 francs, puis cette autre image, ça sera 8 000 francs, etc. » Évidemment, ça fait exploser les budgets. Alors là, on est arrivé à la conclusion qu'on a un principe qui est normalement qu'on met un plafond, mais dans un cas où ça n'est pas réaliste, où il faut, disons, penser en termes de bon sens, on va soit dire on paye un peu plus parce qu'il faut vraiment que ça paraisse comme ça, soit même dans des cas exceptionnels, on dira là nous levons l'obligation du libre accès parce que sinon on s'en sort plus.
Alain Courta, ça a l'air plutôt pas mal, non? Du point de vue de l'éditeur. Il n'y a plus de débat à faire.
Oui, non. C'est-à-dire que, d'une part, le Fonds national suisse de la recherche scientifique joue vraiment un rôle important pour la diffusion des recherches. Et puis nous, en tant qu'éditeurs, sans le Fonds national, on ne pourrait pas publier une grande partie de nos publications scientifiques. Donc on peut déjà dire qu'ils jouent un rôle important, ils sont présents, et puis ils sont en partie à notre écoute. Maintenant, au moment où il y a 2 ans, l'obligation de l'open access, du libre accès, a été introduite pour les chercheurs et indirectement pour nous, éditeurs, j'ai fait partie de ceux qui ont lancé une pétition. Et puis je me suis opposé, pas au principe, et j'ai débattu souvent à travers, sans qu'on soit ensemble, mais les médias interrogeaient souvent en Suisse romande, moi et d'autre part M. Schubert, et à aucun moment dans mes déclarations, je me suis opposé au principe du libre accès. J'ai dit plusieurs choses. La première chose, c'est que le libre accès, si on veut y arriver, il faut le financer, et il faut le financer de manière que les éditeurs puissent vivre, sinon ça ne va pas fonctionner. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'introduit du jour au lendemain. Les maisons d'édition avaient des modèles économiques. elles doivent passer à un autre modèle économique, je le comprends tout à fait, et puis je suis prêt à changer. Chez nous, on a mis vraiment on a pris les mesures pour aller vers ce nouveau système, mais il ne fallait pas le faire. Le Fonds national, au départ, nous avait donné 3 mois pour changer d'un système qui reposait sur 50 années d'expérience, voire 400 ans si on compte le début de l'imprimerie, pour changer. Donc je me suis opposé à ça. Puis troisième chose que j'ai demandé et que finalement j'ai obtenu et qui pour moi est très positif, j'ai demandé qu'il y ait des études. C'est-à-dire que l'introduction du libre accès nécessitait des études, des comparaisons, et puis qu'on puisse un peu avoir des chiffres et discuter. Et je dois dire que sur plusieurs points, le Fonds national est entré en matière. Maintenant, en tant qu'éditeur et avec l'Association des éditeurs, on a encore un petit désaccord avec le Fonds national, c'est sur le montant de notre travail. J'aimerais dire que actuellement, le désaccord il porte, à mon avis, sur 2 à 3 000 francs par livre. Nous, on voudrait 2 à 3 000 francs de plus. C'est ce qui nous permettrait de vivre. Mais si on n'a pas ces 2 à 3 000 francs, on va pouvoir continuer quelque temps à faire des livres, mais toutes les maisons d'édition auront des difficultés. On commence par baisser les salaires, par restreindre les choses, et puis le jour où une maison d'édition doit être remise à quelqu'un d'autre, elle n'est pas remise, elle disparaît. Il y a eu plusieurs cas en Suisse romande dans les années 90, et je crois qu'il faut inciter les chercheurs à faire pression sur le Fonds national pour qu'un tout petit peu plus d'argent soit mis. J'aimerais donner juste quelques chiffres. Le Fonds national distribue pour la recherche scientifique et sa diffusion 849 millions par année. C'est le chiffre de 2014. Pour les publications, cette même année-là, il a mis 1,9 million, soit 0,22%. Puis, j'aimerais dire que tout ce qu'on demande, la petite augmentation qu'il fera, elle ne va pas couper les moyens des chercheurs de manière terrible. Et puis, je pense que si on trouve un compromis, toute la place scientifique suisse sera vraiment favorisée. Puis j'aimerais aussi dire que, par l'intermédiaire de l'Association des éditeurs suisses, nous, on s'est aussi activés. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'en Suisse, il manquait, par exemple, une plateforme pour les livres en libre accès. On va ouvrir en mars une nouvelle plateforme où un grand nombre d'éditeurs suisses romands, suisses alémaniques et tessinois vont mettre leurs livres en libre accès. Je dois dire que pour les chercheurs, pour l'instant, que j'ai quelques livres en libre accès sur mon site, qu'un autre éditeur l'a sur son site, ce n'est pas très intéressant parce qu'ils ne peuvent pas chercher, ils ne peuvent pas entrer des mots-clés, ils ne peuvent pas travailler. Avec cette plateforme, on va vraiment offrir un outil pour la recherche. Et puis, on va ajouter, si on trouve les moyens, une deuxième couche, c'est qu'un livre, et vous travaillez dans la communication, vous devez le savoir aussi bien que moi, sa publication, elle est nécessaire. Mais un livre, il a besoin de promotion. Sur cette plateforme, on va ajouter, notre objectif, c'est d'engager des journalistes scientifiques pour rendre le savoir de certains livres accessible, pour attirer l'attention d'un public plus large. Parce que, à mon avis, en sciences humaines et sociales, on s'adresse certes à des chercheurs, mais on s'adresse aussi à un public plus large. Et ça, c'est aussi important. Quand on regarde la campagne américaine pour la présidentielle, on voit qu'il y a énormément de gens qui, finalement, se sont contentés d'accepter des idées. Et puis, il y a à côté des chercheurs, des gens qui ont démontré que ces idées pouvaient être combattues, voire fausses. Et puis, je crois que vraiment la communication scientifique, elle a une très grande importance pour la société dans son ensemble, parce que si on l'ignore, on peut prendre des mauvaises décisions.
J'irai tout de suite vers vous, François Vallotton, mais Paul Schubert, là, vous avez été interpellé. 2 000-3 000 francs de plus par livre. En plus, vous avez affaire à des gens visiblement raisonnables qui jouent le jeu. Alors, on est sur le point de trouver un accord ce soir.
Mais je crois qu'en fait, le point de désaccord est mineur. On en a d'ailleurs parlé, M. Corta et moi, vendredi dernier, dans une autre réunion. Et en fait, les éditeurs, pour autant qu'ils fassent un certain effort précisément de travail d'édition, ils obtiennent beaucoup plus que les montants minimaux. Il suffit d'aller sur la base de données P3 du Fonds national pour voir quels sont les montants réellement alloués. Donc, en fait, je crois que le différent est quasi inexistant. Simplement, moi, je me réjouis d'entendre ce que dit M. Korta, parce que, dans le fond, il est en train de se passer ce qui s'est passé avec les banques qui disaient non, on va faire de l'autorégulation. Il a fallu un peu mettre la pression et puis tout d'un coup, il y a des miracles qui se produisent. Et je suis ravi d'entendre tout ce qui est en train de bouger au niveau d'un monde de l'édition qui a peut-être un petit peu profité, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais peut-être profité dans certains cas d'une certaine rente de situation. Et donc là, on a dû faire un peu bouger les choses. Et je crois que, en fait, tout le monde en profite. Mais de nouveau, je crois que le différent, il est minime. Et j'ai eu l'impression qu'il était en passe d'être résolu, en tout cas d'après la discussion de vendredi dernier.
Il y a une chose très intéressante que j'ai entendue tout à l'heure dans l'intervention de M. Korta, je crois, c'est qu'on est en train d'évaluer aujourd'hui, de comparer des livres qui sont publiés sous forme écrite et puis des livres qui sont publiés sous forme électronique. François Vallotton, est-ce qu'on compare la même chose là ? Ou est-ce que c'est la même chose finalement ? Ou est-ce que ce sont deux ouvrages différents, un livre qui est électronique et puis un livre qui est publié sur papier ?
En effet, c'est une vieille question de l'histoire des médias. Depuis McLuhan, on sait que the media is the message. Donc, c'est véritablement le support qui contribue de manière très importante à orienter aussi le sens et l'interprétation qu'on peut faire à un contenu. Donc, en effet, on ne lit pas de la même manière un contenu numérique et un contenu papier. Alors, encore une fois, les choses sont compliquées parce que les contenus numériques, on les imprime. Donc, les oppositions ne sont pas aussi frontales entre la publication numérique et la publication papier. Mais évidemment, c'est des lectures différentes. Et comme je le disais, il y a un certain nombre de différences. La publication papier, elle a une beaucoup plus grande pertinence dans une forme, comme disent les anglo-saxons, d'agenda setting, donc de mettre à un moment donné en lumière une problématique que peut avoir une publication numérique, parce que la publication numérique, encore une fois, elle doit pouvoir être visible et être repérable par rapport à un océan de publications qui est considérable. Et donc, ça, c'est justement ce que peut permettre le papier, même la revue traditionnelle, même si, de nouveau, d'autres canaux peuvent, numériques également, peuvent permettre, évidemment, de relayer cette actualité. Donc, je pense, en effet, que les choses sont différentes et que, on l'évoquait tout à l'heure, le poids symbolique du livre reste, du livre papier traditionnel reste extrêmement important. Et c'est vrai que par rapport à cette question des commissions de nomination, pour l'instant, un candidat qui n'aurait un dossier que numérique, je pense, partirait sur des bases qui seraient des bases moins favorables que quelqu'un qui a publié dans deux ou trois grandes maisons d'édition, notamment sur le plan international. Et j'en profite pour ajouter un autre élément. Je pense que, en effet, comme je ne suis ni du Fonds national, ni partie prenante, disons, du monde de l'édition, je peux le dire, je crois que ces oppositions se sont un peu atténuées. Et je pense que tout porte à croire que les choses évoluent vraiment dans le bon sens. Maintenant, je crois qu'il y a un autre défi à relever, et ça, c'est un défi qui nous concerne tous, c'est inventer la publication numérique scientifique de demain. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et à ce niveau-là, nous avons besoin à la fois du Fonds national, évidemment, pour développer une réflexion sur... une réflexion sur la communication scientifique et sur les meilleurs supports qui puissent la relayer, et évidemment une connaissance des acteurs du livre, une contribution, pardon, des acteurs du livre dans leur diversité. Et à ce niveau-là, on est encore, y a encore beaucoup de choses à construire. Il est absurde de continuer à publier des thèses de 700 pages sous format papier, avec 300 pages en annexe, avec des tableaux qui n'intéresseront qu'un public qui est extrêmement restreint. Donc il faut envisager des publications avec des contenus augmentés. Il faut travailler avec des éléments iconographiques, avec évidemment la question des droits qui est liée, avec des éléments sonores, des éléments audiovisuels. Et là, il y a un véritable laboratoire qu'il faut commencer à construire, encore une fois, en réunissant tous les acteurs, pour être innovant. Et à ce niveau-là, on est presque dans une sorte... c'est intéressant, disons, cette question de l'open access qui peut paraître absolument merveilleuse. C'est une sorte de... Voilà, c'est le mythe de la bibliothèque d'Alexandrie recomposée. Donc, c'est absolument magique. Et en même temps, quand on voit ce qu'est la publication numérique, où les modes d'enseignement, je pense aux MOOCs, tels qu'ils se développent aujourd'hui, on est dans une pauvreté au niveau de la créativité qui est assez consternante. Donc là, je pense qu'il faut être imaginatif et s'emparer de ce domaine. Et je pense que notamment en Suisse, avec ce rapprochement entre les acteurs éditoriaux, les institutions, les domaines techniques, avec les écoles polytechniques, on a véritablement des potentialités extrêmement intéressantes qui, pour l'instant, restent en friche.
Oui, à la Courta, vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, j'aimerais juste ajouter, je partage l'avis de François Valoton, mais il y a un élément à soulever, c'est que je pense que le monde de la recherche doit aussi se poser des questions et, à mon avis, réformer certaines choses. François Valoton parlait des thèses de 600-700 pages. Nous, on est souvent confrontés à ces questions. Et je fais partie des gens qui disent que on doit revoir le système des thèses dans les universités. Et en Suisse romande en particulier, il y a une sorte de retard, à mon avis. C'est qu'on continue à avoir une seule longue thèse qui, à mon avis, pénalise les carrières actuellement. Alors que dans d'autres systèmes, je pense en Suisse alémanique, on divise les choses en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on peut faire une thèse relativement courte et puis par la suite faire une habilitation, un deuxième livre. Les chercheurs suisse alémaniques, comme ça, ils bénéficient, en 2 ou 3 ans, ils peuvent faire une thèse de 200 à 250 pages qui devient publiable. Et puis, ils peuvent compléter leur travail soit sur le même sujet, soit partir sur d'autres sujets, pour faire une habilitation. Et ça, ça favorise, à mon avis, aussi les carrières, parce qu'à partir du moment où on dispose d'une thèse, on peut postuler à divers postes, bourses et accès à des financements. Et puis, moi, de plus en plus, j'avais une autre position il y a 10 ans, quand j'étais chercheur, mais actuellement, je pense que les universités en Suisse romande devraient vraiment se poser cette question pour plusieurs branches, où il y a des problèmes.
Merci, je crois que vous avez apporté vraiment beaucoup de choses très, très intéressantes. J'aimerais me tourner vers la salle à présent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ce qui a été dit par nos spécialistes suscite des interrogations, des propositions, des réactions, des critiques? Monsieur.
Il me semble qu'il y a une question sous-jacente qui n'a pas été posée, c'est la question de la durée. En effet, pour l'instant, la publication électronique, je la trouve très limitée dans le temps, tandis que le papier, même acide, il va perdurer. Et j'en tiens pour preuve le fait que quand on cite quelque chose qui d'ailleurs n'apparaît, je ne connais pas de bibliographie d'ouvrage diffusé de cette manière, on met non seulement le jour, mais même l'heure où on a consulté l'Internet. Ça me semble tout de même assez patent.
Quelqu'un veut...
Alors, cette question de la durée des objets électroniques, en effet, elle se pose. Pour moi, et en tant qu'éditeur, elle pourra se résoudre uniquement par une collaboration entre éditeurs et entre acteurs de la recherche. Et la plateforme qu'on est en train de mettre en place, ça doit, à mon avis, devenir vraiment un objet où les travaux sont concentrés, mais où il y a aussi une démarche de conservation à long terme. C'est-à-dire que les livres qu'on met là, notre objectif, c'est de mettre ensemble les moyens pour que les formats puissent évoluer. Par exemple, on va avoir certes des formats PDF, EPUB, etc., mais on aura aussi des formats XML qui, eux, sont codés, ils peuvent vraiment, par quelques changements, on peut les changer et puis les faire évoluer. Et c'est par des travaux comme ça qu'on pourra vraiment garder la longue durée à ces livres et à ces objets. Éparpillés un peu partout sur Internet, à mon avis, ça serait une mauvaise solution, mais d'avoir des plateformes, une ou deux par pays, pour vraiment les conserver, les mettre en valeur, les faire évoluer, je pense qu'on arrive à conserver ce matériel électronique.
Paul Schubert, sur cette question ?
Oui, en fait, votre question, elle est extrêmement intéressante et elle pose deux sous-questions. La première, c'est quel modèle est-ce que moi, par exemple, je veux donner à mes étudiants ? Est-ce que je veux leur donner le modèle que m'ont transmis mes maîtres ? Ou est-ce que je veux penser à comment les choses vont se passer pour eux ? Dans quelques années, moi, je serai retraité. Alors ça, c'est la première question. L'autre, vous avez raison de dire, on doit absolument se préoccuper de la durabilité de ces données. Mais je vous donne juste un tout petit souvenir qui date de 1993, quand j'ai commencé à l'université de Neuchâtel. On avait ces magnifiques catalogues de bibliothèques, vous savez, avec des tiroirs et des petits cartons. Et mes collègues m'ont dit, non, on va continuer de taper à la main les entrées. Puis je leur ai dit, mais attendez, on a un catalogue électronique. Ouh, mais tu te rends pas compte, mais la durabilité, s'il y a un incendie, etc. Regardez où on est aujourd'hui. Donc, il faut qu'on regarde aussi en avant et qu'on se dise, mais oui, il y a un souci de durabilité, mais ça n'est pas un obstacle tellement insurmontable qu'il faille planter les talons en terre. Voilà.
Je vous remercie d'avoir montré qu'il y avait une conscience à avoir de ce genre de problème.
Autre question ?
Oui. Merci, Raymond Vicky. Tout d'abord, je voudrais signaler à M. Valoton qu'il existe une excellente revue en ligne qui s'appelle ethnographique.org. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une revue qui a été soutenue à son départ par l'université de Neuchâtel. Je ne sais pas si l'université de Neuchâtel continue de la soutenir d'ailleurs. Ce serait une bonne question à lui poser. Et aussi par l'université de Franche-Comté. Elle en est à son 32e numéro, sauf erreur de ma part. Et elle est en libre accès. Et elle utilise tous les médias possibles pour agrémenter, donc mettre des séquences vidéo à l'intérieur d'un article, un truc comme ça. Vous irez voir, c'est assez intéressant. Donc ethnographique au pluriel.org. Deuxième remarque, peut-être un peu pour M. Kerr, je me demande si les machines genre Espresso, Book, Machine ne vont pas aussi complètement changer la donne quant au support. Parce que maintenant, on n'est plus tenu d'imprimer 700-800 exemplaires pour arriver à un prix moyen par exemplaire qui soit acceptable, mais de toute façon, il y en avait 650 ou 750 qui restaient en stock quelque part, et le problème, c'était le coût du stockage dans les locaux, puis après, comment faire pour les éliminer d'une manière discrète, pour pas qu'on nous accuse de dépenser l'argent public d'une manière tout à fait horrible. Je crois qu'il y a vraiment tout qui est en train de changer au niveau des techniques d'impression, au niveau aussi des moyens à mettre en œuvre pour rendre l'article ou le livre plus compatible avec ce qui se passe actuellement sur les supports électroniques en général. C'est vrai que le livre, on va dire linéaire, mais c'est pas juste de dire linéaire, parce que le livre, on va en avant, on va en arrière, on va au milieu, il n'est pas forcément linéaire, mais des fois, on se contente trop sur Internet ou ailleurs de reproduire le papier. Et on n'invente pas assez. Là, je suis parfaitement d'accord. Alors, tant qu'on reste proche du papier, on va pouvoir reproduire Mais sitôt qu'on va sortir de la logique papier, on va se retrouver effectivement avec plus possibilité de reproduire sur papier quelque part, quoi. Les extraits vidéo, les extraits audio et autres. Là, mais en même temps, c'est tout à fait vrai que j'ai commencé à travailler avec des petites fiches que j'ai dans mes tiroirs. Et puis que maintenant, tous les logiciels qui me permettent de travailler intelligemment et de ne pas perdre du temps, mais voire aussi de m'amuser avec du texte, quoi, je trouve ça génial. Donc, si on s'intéresse aussi un peu à ce qu'on fait et qu'on suit l'actualité, on n'a plus trop de craintes, je crois, parce que ça évolue, mais il y a du progrès, quoi. Ça change, mais c'est bien.
Voilà, je ne sais pas si ce bel optimisme appelle une réaction. J'aimerais vraiment bien donner la parole à la salle, hein, qu'on comprenne un peu de temps, mais si vous voulez, allez-y.
Oui, peut-être que moi, je pense que même avec des livres enrichis, le livre papier peut vivre. Parce qu'avec les QR codes, par exemple, vous pouvez facilement retrouver une vidéo et puis y accéder. Donc, à mon avis, les deux formats, le papier et le numérique, peuvent peut-être continuer, oui ou pas, j'en sais rien. Dans notre maison d'édition, ça fait 20 ans qu'on existe, je pense que ça fait 12 ou 14 ans qu'on a commencé à imprimer en numérique. Donc nous, on a compris assez tôt qu'il faut adapter les tirages aux ventes potentielles, et on l'a fait très tôt. On est repassé maintenant à l'offset parce que les prix pour 300 exemplaires, même en offset, sont tellement descendus qu'on arrive encore. Et puis, on est en train de se reposer la question de repartir en numérique. On le fait pour, par exemple, nous, on tire souvent les livres universitaires à 300 exemplaires. Ça arrive souvent qu'on les épuise. On doit en retirer, mais on sait qu'on n'en vendra pas plus de 100 sur les 5-6 prochaines années. On retire en numérique 100 exemplaires, etc. Donc, tout ça, tous ces outils, en tant que maison d'édition, nous, on les utilise, on est prêt à les utiliser. Et puis, quand même, l'Expresso Book Machine, pour l'instant, la qualité reste, pose encore quelques problèmes.
Autre question. Oui.
Non, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. On est passé, il me semble, assez vite, malheureusement, sur une distinction fondamentale entre publier ou éditer. Et je trouve qu'on devrait souligner l'importance de l'édition, de tout le travail de valeur ajoutée qu'il y a autour. Parce qu'effectivement, ça a été dit un petit peu comme ça, mais faire un blog, mettre en ligne ses écrits ou ses travaux ou ses recherches, c'est facile. Mais l'éditeur, en principe, s'il fait correctement son travail, je connais dans le monde plutôt de la littérature certains qui ne le font pas, mais c'est-à-dire il y a quand même une mise en scène de ce qui est écrit. Il faut rendre le contenu intéressant. Alain Corta a dit aussi avant que le rôle du journaliste scientifique, ou quelqu'un qui pouvait faire le passage ou aider le passage entre un type d'écriture ou de contenu universitaire qui n'est pas du tout le même que le contenu qui est entre guillemets lisible par un public déjà averti, grand public, c'est encore une autre question. Mais je pense que dans la discussion, on a beaucoup parlé argent, on parle technique, oui, mais l'éditeur, en fait, il fait aussi autre chose. Il aide l'auteur, me semble-t-il, dans l'idéal, à trouver la façon de faire ce que j'appelle avec un jeu de mots, des contes de faits, c'est-à-dire de rendre la chose intéressante. On ne commence pas même... la vulgarisation scientifique, c'est un type d'écriture. On raconte pas les mêmes choses, on met en avant certaines choses. C'est pas une thèse. D'ailleurs, une thèse, si on veut pouvoir la publier, en général, on nous demande un certain nombre de corrections pour la rendre agréable, séduisante, on pourrait dire, sans qu'elle perde son contenu, mais simplement, c'est pour qu'elle puisse aller vers un autre public. Et c'est là que je pense que l'éditeur a un rôle extrêmement important à jouer. C'est là qu'il devrait être soutenu aussi, parce qu'il y a tout ce travail qui n'est pas que de la recherche de coquilles, mais qui est aussi quelque chose de plus fondamental, me semble-t-il.
Voilà, merci pour ces quelques mots. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Oui. Oui.
Il y a encore une remarque que je voudrais faire, peut-être en complément à ce qui vient d'être dit, c'est que malheureusement, je constate qu'il y a pas mal de prétendues maisons d'édition qui font un travail de sape auprès de nos étudiants et qui leur font croire qu'ils peuvent, parce qu'ils ont fait un mémoire, publier un livre sans qu'il n'y ait aucun travail d'édition derrière. On leur fait briller un miroir aux alouettes en leur disant « Vous serez sur Amazon, vous allez recevoir votre livre gratuitement, vous serez sur Amazon, vous serez répertorié partout. » Notamment, c'est les éditions, publications universitaires européennes, je crois, ou je ne sais plus quoi. C'est un scandale. Les universités de Suisse romande n'ont pas pris position pour dénoncer ce genre de pratique. Je regrette vraiment très fortement. C'est aussi faire croire que le travail d'éditeur n'existe pas. Et je suis chaque année confrontée à des étudiants qui viennent me dire « C'est quoi ce truc ? » Là, je suis très flattée, on m'a demandé de publier un livre. Alors bon, moi, bibliothécaire, je leur réponds « Vas-y pas, c'est une arnaque, si tu mets ça sur ton CV, tu seras soit considéré comme un naïf ou bien soit comme une présomptueuse, hein, ça dépend, quoi. Voilà, on peut avoir tout ça. Mais je regrette beaucoup que le milieu académique ne reconnaisse pas suffisamment le vrai travail d'édition et ne dénonce pas les pratiques de ces maisons prédatrices. »
Voilà. Je vous rassure, l'édition quand même, n'est pas tout à fait un service public.
En tout cas, on l'a fait, peut-être par la voie officielle, mais j'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer sur ces maisons d'édition. Et puis justement, on a en l'occurrence des commissions qui sont des commissions de soutien. Et c'est vrai que bon, il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont sur liste noire. Et puis je crois qu'au fur et à mesure, l'information quand même passe. Pour savoir qu'il faut faire très très attention à ce type d'ouvrage. Mais je suis d'accord avec vous que ça montre bien en effet l'importance du travail éditorial.
Paul Schubert.
Oui, d'abord, je crois que c'est extrêmement important ce que vous avez dit là. Et en fait, ça me permet de revenir sur la question de l'open access, parce qu'on parle toujours de l'open access, mais en fait, l'open access va toujours de pair avec une seconde règle où, dans les sciences humaines en particulier, on a encore beaucoup, beaucoup de peine à évoluer. C'est ce qu'on appelle en anglais le peer review, c'est-à-dire le principe selon lequel, quand vous soumettez quelque chose pour publication, vous vous soumettez au regard critique d'une autre personne compétente qui est dans une position indépendante pour dire oui ou non. Et ces deux choses vont vraiment ensemble. Si vous voulez faire de la publication scientifique de qualité, vous devez la mettre à disposition des chercheurs, ça c'est l'open access, mais vous devez aussi accepter qu'il y ait une règle du jeu qui est que d'autres gens compétents peuvent éventuellement vous dire non. Et ça, évidemment, ça va exactement à l'encontre de ces presses universitaires européennes où il n'y a aucun travail critique préalable. Et là, les éditeurs ont une très grande responsabilité parce que les éditeurs doivent gérer une sorte de conflit d'intérêts. Ils ont intérêt à, excusez-moi le terme, de faire du chiffre, mais d'un autre côté, ils veulent la qualité. Et avoir la qualité, ça veut dire aller chercher des gens compétents ou faire soi-même le travail, mais faire en sorte qu'on puisse dire « ce livre, on le publie parce qu'il est vraiment bon, celui-ci, même si ça pourrait nous amener de l'argent, on préfère renoncer parce que la qualité n'est pas bonne et ce sera mauvais pour notre réputation. » Donc les deux choses, open access et peer review, ça va ensemble.
À la Courta.
Peut-être sur le travail d'éditeur. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on fait vraiment un très très grand travail, on obtient un grand succès. Je disais que nos publications scientifiques sont publiées à 300 exemplaires. Dans ces publications-là, on fait vraiment un travail. C'est-à-dire qu'on impose le format aux auteurs, on impose le nombre de signes, on impose le nombre de chapitres, et puis nous, on impose une forme d'écriture. Dans ces livres-là, les auteurs doivent toujours, par exemple, commencer un chapitre par une anecdote. Parce que l'anecdote, ou la description d'un fait, d'un événement, d'une œuvre d'art, d'un bâtiment, etc., pour attirer l'attention du lecteur. Et puis, on va essayer, dans le chapitre, de reprendre cette anecdote pour arriver à démontrer un phénomène, une explication plus complexe. Et nous, on travaille, par exemple, dans cette collection, beaucoup là-dessus, et on a beaucoup de peine à convaincre les chercheurs à se mettre à cette écriture, mais on y parvient, et on a de plus en plus d'oreilles attentives de chercheurs qui viennent nous voir, parce que les livres se vendent, et puis les médias en parlent, et puis pour les chercheurs, il y a aussi un retour sur investissement, c'est que une fois qu'un média a parlé d'un livre, d'un chercheur, de son travail, quand il y a un sujet qui revient, aussitôt, on appelle ce chercheur-là. Et puis ce chercheur, il obtient de la notoriété, même à l'intérieur de son institution ou au-delà, et il y a de la répercussion. Et là, on obtient. Et ce que je pourrais un peu critiquer au niveau de l'université, c'est qu'on ne favorise pas encore assez ce type de publication. Et pour moi, elle est importante. Les jeunes chercheurs, ils sont poussés à publier beaucoup dans des revues, leurs thèses, des travaux très, très scientifiques. Et puis, il n'y a pas d'espace ou peu d'espace pour consacrer du temps à ces livres-là. Et les choses sont en train de changer. À l'université de Lausanne, on peut obtenir des congés scientifiques de quelques mois, avoir des décharges d'enseignement pour travailler dans des ouvrages de ce type-là. Et je ne peux qu'approuver cette politique-là.
Laurent Gobat.
S'il n'y a pas de questions du public, il y a deux points que j'aurais voulu mentionner qui n'ont pas été évoqués ce soir, qui me semblent importants dans cette discussion. Un, c'est l'aspect communautaire de l'open access, c'est-à-dire qu'on est pris dans l'océan des publications mondiales, et la Suisse, c'est juste une petite partie de cet immense océan. Donc même si, admettons, on publiait toute notre production Suisse en open access, on n'aurait que encore genre 2% de la production totale qui serait en open access. Donc en fait, on dépend de ce que nos voisins font dans ce domaine. C'est un petit peu comme pour les questions environnementales. On peut bien prendre en Suisse des mesures très drastiques, mais si tous nos voisins polluent à tout va, ben on ramassera aussi la pollution. Ça, c'est un élément que je trouve important de bien comprendre qu'on est tous ensemble dans cette question. Et l'autre aspect qu'on n'a pas mentionné, je crois, c'est l'aspect du piratage et le versant illégal. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut parler d'open access dans ce cas-là, mais en tout cas, on trouve plein de choses de façon illégale. Et ça, c'est un élément qui pousse certainement aussi à l'évolution des choses. Si je prends le parallèle avec la musique, on avait parlé de l'aspect de la musique. Qu'est-ce qui a fait que les grands acteurs du domaine ont évolué? C'est notamment l'aspect illégal des téléchargements illégaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, dans les publications, on a aussi cet aspect-là avec une certaine pression. Et quand on voit tout ce qu'on trouve maintenant de façon illégale, c'est absolument hallucinant. Après, évidemment, en tant qu'université, on peut pas. On est un petit peu embarrassé, disons, mais c'est quelque chose qui existe.
Oui, avec un marché gris, peut-être aussi en direction des pays en voie de développement, quand on voit les coûts parfois de certaines revues. Mais c'est quelque chose, évidemment, dont on ne parle pas et qu'on ignore absolument. On se dirige gentiment vers la fin, mais si vraiment il y a encore des questions, c'est volontiers. Moi, je vous poserai alors peut-être à chacun une dernière question pour conclure. Puisque je l'ai dit tout au début, on organise cette table ronde dans le cadre d'un anniversaire ce soir. C'est les 20 ans d'Alphil. Alors, est-ce que, selon vous, dans 20 ans, j'irai encore chez mon libraire ou chez mon agence postale qui se situera à la Coop ou à la Migros pour acheter des livres d'un éditeur comme Alphil? C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, mais comment vous voyez les choses dans 20 ans? Je ne sais pas qui veut commencer, c'est une question difficile.
Hein. Je vais commencer. Moi, j'ai quasiment aucun doute que oui. C'est-à-dire que si nous, on fait bien notre travail, Si nous, on produit, on a une production diversifiée, c'est-à-dire à la fois des livres de ce type-là, à la fois des livres plus scientifiques, à la fois des livres grand public, nous on fait aussi des livres illustrés ou des choses comme ça, en ayant cette variété et en faisant un vrai travail d'éditeur, en faisant des choix, en faisant un vrai travail, on va non seulement rester comme éditeur, mais nos produits vont rester. La forme papier ou pas, je ne suis pas encore sûr de ce qui se passera, mais mes intuitions pour l'instant, c'est que le papier, il va rester, contrairement à ce que j'aurais pu penser pendant longtemps.
François Valoton.
Bon, je crois qu'il faut être toujours extrêmement prudent, extrêmement modeste quand on essaye de tirer des plans sur la comète et de lire dans d'éventuelles boules de cristal. Toutes les personnes les plus compétentes qui se sont livrées à l'exercice par rapport au marché du livre se sont plantées de manière assez monumentale. Il y a quand même 15 ans, on nous disait qu'il n'y aurait plus de livres. Des gens quand même très sérieux qui le disaient avec une assurance totale et qui étaient quand même, dans les propos, étaient très très largement relayés. On nous a dit également que l'open access allait tuer toutes les revues. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. On voit que même sur certains marchés, une chercheuse l'a montré, depuis l'année passée, certaines revues ont davantage d'abonnements papier avec l'open access. Donc, faisons extrêmement attention. C'est très, très compliqué d'anticiper sur un certain nombre de pratiques. Alors, évidemment, ce jeu est on ne peut plus délicat par rapport à la question du marché du livre dans sa diversité. Et on a parlé du livre illustré, on a beaucoup souligné, je crois, dans le débat, le fait que ce marché du livre et également le marché du livre scientifique est extrêmement diversifié. Donc, des livres, évidemment, il va continuer à en avoir, sous différents formats, et avec également un attachement qui reste extrêmement fort au papier. Moi, je suis extrêmement frappé de voir que, même si dans les auditoires, maintenant, tous les étudiants ont un ordinateur, en même temps, quand ils travaillent concrètement sur leur matériel, travaille sur un matériel qui est un matériel toujours imprimé. Même si maintenant, la notation devient de plus en plus facile et autres. Et donc, on a vu également que sur le marché américain, le numérique est plutôt en régression. Donc, je crois, faisons très attention, n'anticipons pas, en tout cas, sur des développements qui restent très largement imprévisibles, et construisons consolidant, je crois, une chaîne du livre dont tous les maillons ont à gagner quelque chose, encore une fois, non pas pour entretenir des gens qui sont au crochet de la société, mais pour vraiment maintenir cette diversité et une exigence aussi dans le travail scientifique et intellectuel. Diversité et exigence, je pense que c'est les mots clé, j'aime bien terminer là-dessus.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore Paul Schubert?
Oui, brièvement. D'abord, je partage la prudence de messieurs Corta et Valoton, évidemment, mais il y a une chose qui me paraît certaine, c'est qu'on est en train de vivre un changement radical dans ce que c'est qu'une publication. Et le digital est en train de révolutionner notre idée même de la publication. Il ne faut pas qu'on ait peur de ce changement. Je pense à ce qui s'est passé avec le passage de la pierre au béton. On continue de faire en pierre, mais on est aussi passé au béton. Et au début, on a construit des horreurs avec le béton. Et puis un jour, les architectes, ils ont compris que le béton, ça ne marche pas comme la pierre. Et ils ont fait des choses merveilleuses. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Les publications vont changer. Ça va peut-être plus ressembler à notre livre traditionnel. Mais je vous rappelle que le livre traditionnel est une révolution. À l'époque des Ptolémées, on avait des rouleaux. On n'avait pas ça. Et puis on était très content avec ça. Et tout d'un coup, il y a eu une révolution. Donc il y en aura d'autres. Et il ne faut pas qu'on ait peur de ça.
Et Laurent Gobat.
Alors, sur la question de l'évolution de l'électronique et du papier, alors là, moi, je suis, je vois plutôt une évolution de l'électronique, en tout cas dans les milieux académiques. Je ne vais pas me prononcer sur la disparition du papier, je ne pense pas qu'il va disparaître comme ça, mais je pense que l'électronique, il va vraiment gagner en importance. Et puis sur la question de l'open access, alors dans 20 ans, j'espère bien que nos politiques qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui, elles auront apporté leurs effets, puis qu'on tout ce qui est produit avec de l'argent public sera effectivement accessible publiquement. Je crois que ce qui est difficile, c'est vraiment la transition, c'est passer du modèle actuel à ce nouveau modèle. Mais une fois que ça sera fait, et j'espère bien qu'on va le faire, eh ben tout sera mieux pour nous, en tout cas.
Merci. Merci, messieurs, pour vos éclairages. Je crois que je peux me faire le porte-parole du public en disant qu'on a vraiment été très intéressés, qu'on a appris beaucoup de choses ce soir. Voilà, la table ronde est terminée. Surtout, n'oubliez pas, au moment de partir, de vous servir de cette Uninews. Uninews, c'est le magazine qui présente l'université. Uninews spéciale Alphil, les 20 ans d'Alphil, une start-up nommée Alphil. Alors, c'est pas notre maison d'édition à l'université de Neuchâtel, Alphil, mais on la considère un petit peu comme la nôtre parce que c'est un de nos anciens étudiants et puis elle travaille beaucoup aussi avec nos chercheurs. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon retour chez vous.